d'enfiler un jean, de mettre ses bijoux, de se maquiller, de mettre un peu de parfum et de marcher dans la rue, ça nous remet dans cette normalité qui fait juste du bien, quoi.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Si je devais donner une définition des mots « naturel » et « spontanéité », je vous dirais sans aucun doute d'écouter cet épisode. Comment ça, ce n'est pas une définition satisfaisante ? Au contraire, vous comprendrez très vite dans cet épisode que Laura Tarantola et Claire Beauvais forment un binôme détonnant des plus réjouissants. Elles ont été couronnées vice-championnes olympiques d'aviron en deux de couple poids léger à Tokyo, 25 ans après la dernière médaille de l'aviron féminin. Et quand on les rencontre, on comprend pourquoi ce duo fonctionne si bien. Laura est ouverte et posée, Claire plus timide, mais totalement feu follée. Mais surtout, leur moteur, c'est l'énergie positive et la bonne humeur. Si vous connaissez mal l'aviron, je vous conseille vivement d'écouter cet épisode qui nous fait comprendre à quel point cette discipline peut être ingrate, mais que les valeurs de partage et de bienveillance qui y règnent font de l'aviron un sport à part. Allez, montez dans leur bateau, on part en virée! Laura Tarantola et Claire Beauvais, bonjour.
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 La jolie petite introduction. Un épisode à deux. Je suis trop contente de vous avoir toutes les deux aujourd'hui dans l'épisode de Championne du Monde. Merci d'être là.
Bah, merci à toi, c'est top.
Yes, merci de nous avoir invités, c'est trop cool.
Laura, Claire, déjà, juste, je le rappelle au début du podcast parce que je trouve ça important, mais vous êtes juste vice-championne olympique.
C'est vrai.
C'est vrai que c'est arrivé.
C'était il y a un an maintenant ?
Un peu plus d'un an.
Plus d'un an. La première question est peut-être bizarre, mais est-ce que vous arrivez à réaliser là, au bout d'un an maintenant ce qui s'est passé ? Et est-ce qu'on arrive un jour à retomber sur Terre ?
Bah franchement, pour moi c'est tout frais et en même temps c'est encore c'est hyper loin et en même temps c'est tout frais. Et quand je regarde les photos, je me dis non, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est nous sur les photos.
C'est vrai ?
Et pourtant c'est arrivé et que c'est vraiment nous qui avons fait ça. Et voilà, donc ouais, c'est détaché mais en même temps en présent.
T'as l'impression, tu regardes les photos et tu dis c'est qui ces deux nanas?
Bah ouais, vraiment.
Elles ont l'air sympas. Elles ont l'air heureuses en tout cas.
Ouais, elles ont l'air vachement heureuses et c'est fou ce qui leur arrive quoi. Non mais oui, c'est vrai que sur les photos, moi je regarde et je me dis c'est comme quand on regardait les photos avant les jeux des gens qui étaient sur les podiums en se disant waouh, ça a l'air génial, ça a l'air irréel de faire ça. Et en fait, quand je regarde les photos de nous maintenant, je me dis waouh, ça a l'air irréel, ça a l'air génial. Et après, je me dis, non, mais Claire, quand même, c'est toi sur la photo, quoi.
Ça te fait ça aussi, Laura ?
Bah, moi, j'ai un peu ce sentiment-là aussi de. En même temps, j'ai l'impression que c'est hyper loin. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier parce que je ressens encore, dans mon corps, quand je pense à ce moment, je ressens vraiment tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions qu'on a eues à ce moment-là et même les mois après. Et en même temps, ça me paraît hyper loin parce que parce qu'entre temps, on s'y est aussi remis quand même,
ouais,
au
bien
sport.
Sûr. Vous avez eu deux compétitions aussi entre temps.
Exactement, on a fait des compètes et du coup, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte. En fait, on se dit ah ouais, on a quand même fait un truc de ouf parce que là, on se sent quand même assez loin et on sait qu'il va falloir encore travailler, 10 fois plus pour refaire la même perf quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là, je pense que moi, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on avait fait.
Quand vous regardez les photos, vous arrivez à retrouver l'émotion, les sensations, parce que sincèrement, je vais avoir l'air un peu cucu, mais j'ai re-regardé votre course et vos interviews d'après résultats et tout, et franchement, ça m'a fait pleurer d'émotion parce que vous étiez tellement contente et alors que moi, j'ai pas du tout vécu le moment et que ça me concerne pas, si tu veux, je vous ai juste regardé à la télé. J'ai réussi à ressentir encore les émotions que vous aviez eues il y a un an, quoi. Mm.
Ouais, carrément. Bah, surtout même à chaque fois qu'on y pense, il y a des moments qu'on a oubliés, mais en fait, il y a toutes les sensations qui sont restées, parce que ça, c'est quelque chose qui reste ancré dans le corps. Et quand on revoit les images, quand on revoit les interviews et tout, même quand on revoit la course, enfin, moi, en tout cas, j'ai encore cette sensation de glisse, ouais. Cette sensation de peur, cette sensation de, ouah, ça fait mal. Bon, je me souviens plus de la douleur, je me souviens juste que ça a fait mal. Mais il y a que les sentiments positifs qui sont restés, et c'est vrai que bah ouais, quand je revois les photos, je me dis waouh, ouais, enfin c'était trop bien, mais en même temps c'est très détaché, et il s'est passé tellement de choses qui nous étaient jamais arrivées avant entre le moment où on a eu cette médaille aux Jeux et là aujourd'hui, qu'en fait on se dit ouais, c'était il y a super longtemps, mais que en fait toutes les sensations, tous les papillons, tout en fait ça reste, et c'est toujours là quoi. Et à chaque fois qu'on y repense, c'est toujours aussi fort.
C'est fou, c'est trop bien. Ouais, bah, justement, avant, tu disais que qu'il s'était passé plein de choses là en un an qui vous étaient jamais arrivées avant. Moi, j'aimerais bien juste qu'on fasse un tout petit retour en arrière sur les débuts quand même, histoire de commencer de la base. Vous faites un sport qui est pas un sport, on va dire, forcément médiatisé et grand public, qui est l'aviron. Il y a beaucoup de catégories aussi dans l'aviron. Vous avez été vice-championne du monde. Je me le suis noté, je voulais pas dire de bêtises, dans le... Mais ben voilà, je l'ai perdu sur ma feuille. Deux de couple, poids léger.
Exactement.
Voilà, super. Comment vous avez commencé l'aviron? Je crois, Claire, tu viens d'une famille où tout le monde fait de l'aviron. C'est un peu quelque chose de famille. Laura, je crois que c'est pas ton cas.
Non.
Qu'est-ce qui vous a plu, en fait, rapidement, j'imagine, que vous y êtes toujours, dans votre discipline?
Moi, en effet, j'ai commencé avec... parce que, en fait, je connaissais parce que ma famille faisait de l'aviron, donc mes deux parents et mon frère.
Ouais.
Mais il y avait une section sportive dans mon collège, et en fait, je voulais pas du tout faire de l'aviron, ça ne m'attirait pas. Par simple esprit de contradiction...
Parce que tout le monde en faisait, je comprends.
Exactement, je voulais pas me retrouver dans le même endroit, et ça ne m'avait pas plu quand j'étais allée sur une compétition en étant... en étant beaucoup, beaucoup plus petite. Et en fait, ma meilleure amie m'a dit « Bah si, viens en faire avec moi. » Je dis « Bon, d'accord, je te promets que j'en fais avec toi si tu viens faire du triathlon avec moi. » Et donc, j'ai été avec elle. Et en fait, ça me plaisait pas spécialement. Mais en fait, on quittait l'école plus tôt et j'étais avec mes amis. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'y suis restée, que j'y suis restée au début. Et après, la performance est venue aussi. Et je suis restée et j'ai commencé vraiment le haut niveau en junior. Quand j'ai été recalée du lycée où je voulais aller, finalement, je me suis dit « Bon, bah, je vais aller dans le même lycée que mon frère, ça a l'air cool, il est heureux.
Okay.
Donc, je vais faire pareil que lui, je vais aller en sport-études. » Et en fait, là, j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Et je me suis dit « Bon, bah, franchement, je peux y rester. » Et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le sport que j'ai choisi au départ. C'était surtout pour être avec les amis.
Et ça a même pas finalement été un coup de foudre quand tu l'as essayé?
Non.
C'est vraiment quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure, quoi.
Ouais, c'est vrai que même l'aviron, au départ, c'est pas un sport hyper plaisant. Les bateaux sont lourds, etc., etc. On en fait surtout... En tout cas, pour le collectif, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on est avec les amis, c'est chaleureux, etc. Et au fur et à mesure qu'on commence à faire du haut niveau, c'est vrai que on perfectionne le geste, on perfectionne la technique, on cherche à être toujours plus précis, à être toujours plus économe pour pas se fatiguer. Et c'est là qu'on trouve toutes les sensations de glisse qui sont juste magiques. Le matin, quand on va ramer, où il y a ce petit rayon de soleil sur la brume, il y a personne, c'est hyper calme. Il y a juste le clapotis de l'eau sur la coque, le plouf des pelles devant, derrière. Et puis, c'est quand même un sport physique, donc... on a vraiment ce sentiment de se dépenser, de sentir son cœur qui bat, de sentir les poumons qui fonctionnent, etc. Et ça, c'est hyper apaisant. Mais ça, on le trouve qu'au bout de 7 ans de pratique, 10 ans de pratique, quand on commence vraiment à avoir un geste précis et économe et qu'on peut se détacher de la douleur physique de l'effort et profiter juste du côté plaisant du sport, quoi.
Ouais, ça t'a fait ça aussi, toi, Laura?
Moi non plus, c'était pas un gros coup de foudre direct. Personne va vouloir se mettre à l'aviron. Mais en vrai, venez, c'est très bonne
ambassadrice.
non, mais vraiment, moi, c'est plus pour le côté social. Enfin, j'étais au collège, c'est une copine qui m'a dit, viens essayer si ça te tente. Et en fait, je suis arrivée au club de Grenoble. Et il y avait un très grand groupe de filles de mon âge. J'avais 14 ans, j'avais envie de me faire plein de copines. Enfin, vraiment, c'était plus cet esprit-là. Et elle faisait de la compète, elle rentrait des championnats de France. Okay. Moi, j'étais très, très loin de tout ça, de la compète, du haut niveau. Et en fait, j'avais des étoiles dans les yeux en les regardant, quoi. Et je me suis dit, waouh, ouais, mais elles ont l'air de s'éclater, j'ai envie de faire pareil. Et après, bah, du coup, de fil en aiguille, je me suis vraiment pris de passion pour ce sport. C'est vrai que on fait un sport d'extérieur, on ouais. a des sensations de ouf. Après, même quand, enfin, voilà, il y a pas besoin d'être vice-championne olympique pour se faire plaisir. Hein. Enfin, même en catégorie loisirs, enfin, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui se font plaisir et vraiment l'avion c'est un sport génial. On est tous dans le même bateau, le but c'est d'avancer ensemble dans la même direction. Enfin ça, on apprend vraiment des valeurs hyper importantes dans la vie quoi. Et puis en termes de cohésion d'équipe, enfin moi j'ai des souvenirs incroyables. Et puis au début on commence par des petites compètes départementales, régionales, puis les championnats de France, etc. Et vraiment là après le haut niveau c'est fait un petit peu de fil en aiguille quoi. Ouais. Quand je regarde plutôt avec du recul, c'était pas un souhait de ma part dès le début, pas du tout. Mais vraiment ouais, c'est vraiment ces sensations là. D'être à Grenoble, on est sur un plan d'eau, on est entouré des montagnes, faire un sport d'extérieur, enfin c'est vraiment
l'environnement
c'est magique.
Est sympa, ouais c'est
exactement,
sûr.
C'est magique.
C'est vrai que l'expression être dans le même bateau prend tout son sens en fait dans votre discipline.
Vraiment.
Et c'est rigolo parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est l'aspect plus social qui vous a amené à la discipline et qui vous a fait rester finalement dedans.
Ouais.
Si je comprends bien en tout cas, plus que le sport en lui-même.
Ah ouais, bah carrément, parce que c'est un moment, c'est un peu un moment hors du temps finalement, parce que un entraînement ça dure 2 heures, mais c'est 2 heures où on est ensemble avec un équipage, c'est 2 heures où on est tous dans la même galère, hein, c'est le cas de le dire, et on bosse les uns pour les autres, les uns avec les autres, et à chaque fois qu'on fait demi-tour, il y a ce moment. C'est le quart d'heure social où chacun boit son petit coup. Bon, c'est de l'eau, hein, voilà. mais voilà, on papote, on discute, puis on y retourne. Et l'aviron, c'est ça, c'est un quart d'heure social super sympathique.
Et c'est ce qui contrebalance l'effet ingrat un peu du sport aussi. Vous le disiez, tu dois te porter les bateaux, c'est quand même un effort qui est violent pour le cardio. Enfin, vous balancez quand même un effort physique à votre corps qui est hyper intense.
Ouais, carrément. Et puis même c'est le plaisir en fait. Enfin, le plaisir de le faire pour soi, le plaisir de le faire pour les autres. Enfin, c'est vrai que nous forcément on fait à haut niveau, donc ouais. Ça engendre plein de choix, plein de c'est des heures de travail, c'est 12 entraînements par semaine, c'est tous les jours. Enfin, ouais. C'est vraiment, on est dans une autre dimension, mais on le fait parce que déjà je pense que en tant que sportif de haut niveau, enfin on a envie de se dépasser pour soi, pour s'éclater, pour rechercher un peu ces émotions qu'on ressent quand on est fier de soi, quand on monte sur un podium avec des copines. Enfin, c'est juste des émotions qu'on partage qui restent gravées. Et pour l'instant, ouais, moi je l'ai pas encore ressenti dans un autre domaine autre que le sport, autre que l'aviron, tu vois. Et le plaisir aussi de le faire pour les autres quand on est avec des copines, quand ça fait mal au milieu d'une course, ouais, on monte dans des efforts vraiment très intenses. L'aviron, c'est un des sports les plus complets qui existent. Ouais. On fait vraiment travailler tous les muscles du corps. Et si on ne sait pas pourquoi on le fait, si on n'a pas de plaisir, oui, c'est clair qu'il n'y a pas trop d'utilité, quoi.
Tu le disais, là, Laura, vous n'aviez pas de volonté. Enfin, vous ne vous êtes pas dit en commençant l'aviron, oui, je veux en faire potentiellement mon métier ou en tout cas une partie de ma vie et devenir professionnelle là-dedans, gagner des médailles. En fait, comment ça se passe quand on est... C'est quoi le processus, en fait?
Alors moi je me souviens ma première convocation, c'était avec c'était avec le collège et j'avais pas l'intention de faire des compétitions en aviron. Hein.
D'accord.
Ça c'est sûr et certain, c'était pas du tout ce pourquoi je m'étais inscrite. Et en fait, j'ai reçu ma première convocation et je l'ai donnée à mon père. Et en fait, je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de participer, en fait. Et il me dit...
Tu voulais même pas y aller?
Ah non, j'avais pas l'intention d'y aller. Mais vraiment pas.
Génial.
Et je lui ai donné la convocation et tout. Et je lui ai dit, je te la donne, mais moi, je veux pas participer, quoi. Et il me dit, non, mais Claire, commence pas à faire caca dans ta culotte. Je peux te dire que maintenant, les compétitions, enfin, moi, je vais signer la convocation et la compétition, tu vas y aller parce que t'as un équipage avec qui tu t'es entraîné. Et en fait, j'ai pas eu le choix, quoi.
Ah oui, c'est le padré qui a dit, tu y vas.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, lui, il est prof de sport, donc voilà. Et en même temps, maintenant, il est entraîneur aussi au club. Il était entraîneur avant. Mais voilà. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix et j'ai dit, bon, bah, d'accord. Très bien. Donc, j'y suis allée. Et en fait, bon, c'était pas marrant du tout. Parce okay. qu'il faisait super froid. Je me souviens, bon, on devait faire, c'était 4 km en yolette. Donc, c'est les bateaux débutants, etc. Mmh. Donc, c'est les premières têtes de rivière pour les jeunes, quoi. C'est la première compétition qu'on fait. Il faisait super froid. On ramait. On avait des bonnets. On avait des gants. À la fin, je sentais plus mes mains. Ma coéquipière, elle avait pas de gants, donc elle s'était griffée le dessus des mains, il y avait du sang partout, enfin, c'était le carnage, cette compétition, c'était le carnage, et finalement, à chaque fois que j'avais une convocation, je me disais,
je veux pas y aller.
Et finalement, en fait, le fait de faire des courses, c'est que, ça libère plein d'endorphines dans le corps, enfin, et après, on est trop heureux à la fin de la course. Mmh. Quand ça s'arrête, on est trop content et tout, on est avec les copains, les copines, et finalement, c'est trop cool quand ça s'arrête. Et avant, t'es non, je veux pas y aller. Mais c'est cette motivation qui m'a. Enfin, à chaque fois qu'on fait une compète, c'est les coups de marteau sur la tête. Ça fait mal et en fait, ça nous qualifie pour une compète encore plus importante ouais. qui va faire encore plus mal. Et ainsi de suite. Et en fait, on continue parce qu'on sait que à la fin, on va être trop content d'avoir participé. Et c'est pour ça que les compétitions. C'est comme ça que moi, en tout cas, ça m'a amené sur le chemin des compétitions, quoi.
C'est drôle. En fait, vous êtes parti dans un engrenage.
Ouais, c'est ça.
Ce que tu dis, c'est que tu t'es qualifié pour une première compète. Si t'es pas trop mauvaise, tu te qualifies pour une autre. Et en fait, ça ne finit jamais. Et là, vous êtes encore dans l'engrenage. C'est pareil pour toi, Laura.
Moi, ouais, c'était un peu ça aussi. À Grenoble, on avait vraiment un gros groupe très performant déjà avant que j'arrive. Et je suis arrivée et c'est vrai que je me suis rapidement intégrée à ce groupe-là. Et du coup, on a fait des compétitions régionales, etc. Et puis, 2 ans après que j'ai commencé, on a fait championne de France. Et moi, c'était ma première médaille au niveau national. C'était mon premier titre. Et enfin, ça reste encore maintenant un de mes meilleurs souvenirs, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que, en fait, de fil en aiguille, d'année en année, je m'entraînais de plus en plus. Et puis, mais l'aviron, on sait jamais, enfin, on a toujours tellement entendu dire, enfin, en France, c'est difficile d'en vivre.
Ouais.
Et du coup, on a continué les études à côté. Moi, je m'entraînais en dehors des cours. Au lycée, j'avais pas d'horaire aménagé. C'était toute une organisation. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me faisait hyper plaisir et puis je voyais qu'en cours je réussissais à pas être trop mauvaise non plus parce que je m'organise, enfin c'était juste une question d'organisation, comment bien gérer son temps. Et après j'ai fait une un DUT aménagé, l'école de commerce aménagée, etc. vraiment. Et en fait je me suis dit clairement ma philosophie c'était de me dire j'arrêterai l'aviron le jour où je pourrais pas tout concilier et où ça rentrera plus, ce sera plus possible. Laura, tu feras comme tout le monde, t'iras travailler et ce sera fini, quoi. Et puis c'est pas grave, c'est juste une étape, quoi. Et en fait je me suis tellement toujours dit ça que en fait j'avançais étape par étape. Et après en junior je commençais à être dans les collectifs France, mais pas dans les meilleurs collectifs, dans ceux un petit peu ceux juste en dessous. Et puis après, une fois qu'on arrive en catégorie moins de 23 ans, là il y a cette catégorie de poids léger qui existe, ouais. où du coup nous on fait toutes les deux parties. Mmh. Et du coup c'est là où j'ai pu intégrer l'équipe de France en poids léger. Et à partir de là, j'ai eu des premières médailles en moins de 23 ans au championnat du monde. Et puis après on a commencé notre association avec Claire en 2017 et ça a tout de suite matché, quoi.
Mmh. Tu le dis, en 2017, vous avez été associé. Avant, vous êtes même pas dans les mêmes clubs, d'ailleurs. Hein. Donc, vous vous entraînez pas au même endroit. Comment ça se passe? C'est rigolo parce que souvent, dans les interviews que j'ai pu lire de vous, vous dites, et effectivement, c'est ça, on m'a associé à Claire ou à Laura. Déjà, je trouve ça rigolo parce qu'on a l'impression que c'est une entreprise.
C'est un peu ça, oui.
C'est les deux associés de la start-up, Aviron.
Faut pas qu'elle coule, celle-là.
Non, celle-là, faut pas qu'elle coule.
C'est clair, c'est le cas de le dire. Et comment ça, est-ce qu'on vous a imposé finalement l'une à l'autre? Comment ça se passe? C'est pas vous qui vous êtes choisis?
Non, pas du tout. En fait, on a tout un chemin de sélection en hiver. Donc ça, c'est plusieurs compétitions, plusieurs fois où on se rencontre avec l'équipe de France, on est sélectionné pour aller en stage. Ils mettent des personnes dans un bateau, ils voient comment le bateau il avance, après on switch avec d'autres personnes, etc. Donc au fur et à mesure de ces piges, ils affinent les sélections, et à la fin de ça, on a une sélection en bateau individuel, et en fait les deux meilleurs de cette sélection monteront dans le double. D'accord. Et c'est quoi, parce qu'en poids léger, il n'y a que le double qui est olympique. Donc souvent, il n'y a que ce bateau-là qui est formé, plus une personne derrière pour remplacer dans le bateau. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est les deux premières de ce championnat-là qui sont associées ensemble pour monter dans le double.
D'accord.
Donc en fait, on n'a pas trop le choix sur sa coéquipière.
Mais ça, c'est incroyable parce que vous êtes quand même, comme on dit, c'est une vraie entreprise parce que vous ramez ensemble et vous avez... Vous pouvez pas choisir la personne avec qui vous allez ramer. Non. C'est quand même dingue de se dire ça. Comment ça se... Enfin, j'imagine que dans le passé, il y a eu des associations qui sont pas très bien passées. Elles sont quand même, enfin, elles ou ils sont obligés de ramer ensemble.
Ouais.
C'est particulier quand même comme mode de fonctionnement.
Ouais, carrément, c'est assez paradoxal parce que du coup, bah, sur le papier, on dit c'est les deux meilleures individualités en fait qui sont associées ensemble. Mais c'est vrai qu'après, bah voilà, on part plus de 200 jours par an en stage, on vit H24 ensemble. Il faut qu'on s'accorde même aussi bien techniquement sur l'eau, etc. Il faut qu'on se complète. Enfin, c'est vrai que c'est quand même, ouais, c'est la règle au niveau français, mais souvent, bah, si tu t'entends pas avec ta coéquipière, bah, tu t'entends pas. Et moi, ça me paraît impensable aujourd'hui de faire un bateau avec quelqu'un avec qui je m'entendrais pas, parce que, bah, c'est du plaisir, on se dépasse pour l'autre, on doit s'accorder, enfin, s'il y a pas de communication et tout, enfin, c'est l'enfer, quoi. Et nous, du coup, on a eu la chance que ça matche tout de suite. Après, on a appris à se connaître aussi, on a des caractères assez différents. Mais et puis je pense qu'on était aussi toutes les deux animées par ce projet de haut niveau. On a vu que le bateau tout de suite il avait un truc qui fait que ok, si on bosse bien, peut-être qu'on peut aller loin ensemble. Et du coup, je pense que ça a aussi contribué au fait que ça match et on a trop envie de le faire pour soi, de le faire pour l'autre et de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller vite, quoi.
Mais puis surtout, encore une fois, deux personnes qui sont les meilleures vont pas forcément être les meilleures ensemble.
Ouais, carrément.
C'est la question de... enfin, qu'est-ce qui fait d'ailleurs un bon binôme?
Bah ça, c'est la question à 10 000 euros. Ouais.
J'imagine qu'on vous la pose souvent, mais...
Bah ça, c'est... Ouais, non... enfin si, ouais, on nous pose souvent, la question.
C'est normal.
Et ça saurait si on avait la réponse, parce que du coup, on pourrait faire des bateaux hyper performants. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous a... Enfin, qui nous a fait gagner un cran aussi, c'est de bien communiquer. On a à peu près les... Enfin, on est très complémentaires sur notre façon de ramer sur l'eau. Donc voilà. Et en même temps, on a des défauts, mais globalement, c'est les mêmes. Donc, il y a des choses qu'on fait pas bien, mais on les fait pas bien ensemble. Donc, en fait, ça gêne pas trop.
Vous pouvez pas vous le reprocher, en tout cas.
Ah oui, non, on va pas se taper dessus à cause de ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que nous ça a bien matché parce que on communique et on est toujours on est toujours prête à faire un pas vers l'autre pour que ça matche bien, pour que ça fonctionne et que le bateau il glisse. Donc ça c'est quand même super cool. Et c'est vrai que faire ça avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, c'est encore c'est beaucoup plus compliqué quand à chaque fois on sait pas, on doit marcher sur des œufs pour pas vexer la personne, etc. Personnellement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des super coéquipières avec qui je m'entendais bien. Donc ça m'est pas trop arrivé, mais si ça devait m'arriver, je sais pas trop comment est-ce que je gérerais le truc, quoi.
Ouais. Bon, c'est bien. Tant que j'ai envie de dire, tant mieux que ça te soit jamais arrivé et que ce soit comme ça. Si là votre binôme il a été créé pour les Jeux de Tokyo, c'était vraiment la volonté en tout cas de vous associer pour les Jeux de Tokyo. Ça avait été le premier objectif.
En fait, nous, tout est remis à zéro tous les ans, en fait. Enfin, il y a pas de, on n'a jamais notre nom écrit sur la coulisse, en fait. Tous les ans, il faut qu'on soit les meilleurs. Okay. Tous les ans, il faut qu'on prouve que le bateau Claire et Laura, c'est l'association qui va le plus vite. Mm-hmm. Et du coup, en fait, on peut pas trop se projeter, même si on a des rêves, on a des objectifs ensemble. Mais voilà, on est toujours sujet à, il faut quand même prouver qu'on avance, quoi.
D'accord.
Ce qui aussi permet de pas se reposer sur nos lauriers, ce qui nous permet de progresser année après année. Mais c'est vrai qu'il y a jamais d'association en début d'Olympiade en disant votre objectif c'est les Jeux. Non, avant on a des qualifs, on a des années pré-olympiques, etc. Des étapes importantes avant, quoi.
Comment ça se passe cette mise sous pression que vous avez du coup en permanence? Parce que ça veut dire, si je comprends bien, que si on considère que l'une ou l'autre n'est plus dans les deux meilleures, elle serait potentiellement remplacée par quelqu'un d'autre, si je comprends bien, c'est
ouais.
ça
ouais, carrément.
Donc comment vous gérez cette pression là finalement?
J'avoue
qu'on apprend petit à petit aussi à le gérer et en fait on a la chance d'être hyper soudés. Enfin, on sait que on a du mal toutes les deux à se dire qu'on ramerait avec quelqu'un d'autre. Enfin, ouais. Déjà, c'est un travail rien que sur la terre en fait. Enfin, on a mis 4 ans avant de bien se connaître, avoir enfin même si la confiance a été là de base, il y a toujours des trucs qui font que on partage quand même plus de la moitié de notre vie, enfin de notre année avec cette personne.
Bah, donc notre vie, mais enfin ouais, c'est vraiment ça.
Et du coup, il y a vraiment plein de choses autour de juste la performance en bateau en fait. Et après on sait que le sport c'est des hauts et des bas. On sait que l'hiver on n'est pas forcément au top, il y en a peut-être une qui sera un peu moins bien, mais on a cette chance de pouvoir compter sur l'autre quand ça va pas. Mmh. Et en gardant toujours l'objectif, que nous l'objectif c'est l'été d'être hyper forte à deux, et on sait qu'on le sera quoi. Alors que peut-être l'hiver on peut avoir des petits coups de moins bien chacune de notre côté, mais on se soutient pour aider l'autre à revenir et pas du tout écraser l'autre en disant ouais. Tant pis pour toi, moi je veux être championne de France. Enfin, franchement, ça a aucun but d'être championne de France si Claire est pas à côté et si on n'est pas ensemble.
Notre objectif, c'est
le bateau de double toutes les deux, quoi. Donc, on est vraiment sur ça comme stratégie. Enfin, comme objectif à toutes les deux, quoi.
Et comment on fait? Parce que encore une fois, vous êtes deux dans un bateau, vous n'avez pas forcément non plus. Il y a un moment donné, comme dans une entreprise, quand t'es deux dirigeants, ou comme dans un couple finalement, c'est quand il y en a une des deux qui va moins bien, ou l'une des deux qui se blesse aussi par exemple. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez appris à le gérer au fur et à mesure?
Souvent c'est chacune son tour, hein, généralement. Et donc, on se serre les coudes pour éviter à l'autre de descendre trop profond et de lui maintenir la tête hors de l'eau. Enfin, après, c'est l'autre qui se noie. Donc, on lui sort la tête de l'eau aussi. Et en fait, on communique. Et du coup, il y a toujours ce truc où on se dit, là, ça va pas, je suis pas bien. Et en même temps, on accepte. Et on me dit la prochaine fois je sais que je pourrais avoir quelqu'un sur qui compter quand moi ça ira pas et voilà et en fait c'est ce truc là de se dire on est toujours la l'une pour l'autre en fait, et ça c'est hyper important de se dire ça peut aller moins bien et de l'accepter, et que c'est pas l'objectif à l'instant T, c'est que là ça va pas, mais je connais le chemin trouver quelqu'un avec qui ça ira bien, en l'occurrence Laura. et c'est ça, c'est se souder l'une à l'autre pour éviter de descendre trop profond quand ça va pas, et de savoir que ça ira mieux demain. En fait,
vous avez des petits tips, vous faites des petits trucs entre vous justement pour vous remonter le moral ou quand ça va pas?
On a des caractères différents, donc moi maintenant je sais exactement comment Claire elle réagit quand elle est pas bien, parce que de base c'est quand même assez dur je pense quand on... déjà on est sportif de haut niveau, on a cette quête de performance, on veut toujours être la meilleure, enfin faut pas se cacher, et puis même c'est pour notre équipage, c'est très bien de vouloir se tirer la bourre toutes les deux, mais du coup on a quand même mis un certain nombre de mois ou peut-être même d'années avant de vraiment... accepter parfois de entre guillemets se mettre à nu en mode là Claire je suis pas bien, enfin j'ai besoin de conseils, je suis pas bien, aide-moi là, je sens que je suis fatiguée, ça va pas, qu'est-ce que tu me, enfin voilà, aide-moi quoi, parce que c'est vrai que quand on a un programme d'entraînement à suivre, on a notre objectif qui est d'être hyper forte, enfin de progresser. Et s'il y a personne extérieur un petit peu qui nous dit là Laura t'es en train de faire une connerie, t'es fatiguée, cet après-midi tu te reposes, tu vas pas à l'entraînement sinon tu vas te blesser, c'est difficile tout seul quand on a toujours envie d'en faire plus, d'avoir cette lucidité en fait à l'instant T. Et des fois c'est pas grand chose, mais c'est juste le petit truc qui fait que on passe à côté d'une blessure quand il y a la blessure, on sait que la coéquipière elle a hyper confiance et elle nous laisse du temps pour revenir, et ok, on accepte que de toute façon il y a jamais de bon moment pour se blesser, c'est toujours un moment où c'est pas cool parce qu'on va louper quelque chose d'important, et on a l'impression de faire du surplace quand les autres avancent, mais en même temps quand le corps il envoie un signal, c'est le corps quoi, c'est notre outil de travail, on est obligé de l'accepter, on peut pas continuer sans l'écouter quoi. Et du coup de pouvoir avoir cette confiance avec l'autre, cette communication, et de se dire ok, peut-être on passe à côté de certaines choses à l'instant T, mais on regarde plus loin, quel est notre objectif, et hop on remet un plan d'action en place et on avance quoi avec notre coach. C'est vrai qu'on a la chance d'être quand même assez soudés et d'être de vraiment communiquer ensemble, Et du coup, on sait que une carrière de sportif, c'est jamais, ça monte pas, c'est pas progressif, ouais. c'est les montagnes en fait. Enfin, on progresse pour régresser, pour reprogresser encore plus fort. Et forcément, quand on vit des trucs de ouf tout en haut, ils sont aussi très très bas quand ça va moins bien. Donc c'est cool de pouvoir pas être tout seul, quoi.
Je trouve que c'est un point clé que tu dis et que je trouve hyper intéressant dans le sens où ça veut aussi dire que vous avez besoin de pas avoir peur d'être vulnérable l'une envers l'autre. La vulnérabilité, c'est souvent un truc qu'on n'associe pas trop au sport de haut niveau.
Carrément.
Et surtout, encore une fois, dans un spectre où vous êtes aussi concurrente. Si je peux dire. Et vous êtes dans une discipline où finalement la vulnérabilité et la performance, elles sont presque obligatoires et en tout cas presque associées en fait.
Ouais, et puis même c'est super important parce que quand on apprend à montrer cette vulnérabilité, ça apprend aussi à l'accepter. Si on ferme les yeux, qu'on met un masque en disant non, ça va, et qu'on montre toujours qu'on est hyper fort, que ça va toujours super bien, qu'on est toujours au top, et ben en fait on se cache à nous-mêmes nos propres problèmes. Et donc ça, en fait. On est bien, et puis un jour, ça va pas du tout, quoi.
Ça lâche,
et là, on comprend pas pourquoi, on tombe des nues, et c'est souvent là que c'est le pire, quoi. Donc, en fait, ouais, cette association, enfin, moi, j'étais un peu comme ça au début, et c'est vrai que maintenant, j'ai aussi appris à parler, à dire ça va pas, et le moment où je dis ça va pas, et ben, en fait, je me rends compte moi-même que ça va pas, et c'est comme ça qu'on trouve et qu'on met le doigt sur les problèmes, et que de mettre le doigt sur un problème, ça apprend à le gérer en fait. C'est-à-dire là il y a ce problème là, quelle est la solution, et d'en parler avec quelqu'un, et c'est ce quelqu'un qui va te donner la solution pour ton problème, parce que toi-même t'es pas capable de le trouver. Mais ouais, cette vulnérabilité, elle est hyper importante, et surtout c'est hyper important de l'accepter et de le montrer, et de le montrer aux bonnes personnes. Parce que c'est pas facile, et en même temps si tu le montres à quelqu'un et que c'est pas la bonne personne, et il pourra s'en servir contre toi en fait.
Ouais, vous peut-être pas montrer aux adversaires par exemple.
Non, là on est toujours fort. Il y a pas de problème. Et de toute façon, le jour où on est face à des adversaires, c'est pas le moment d'être vulnérable.
C'est sûr.
Donc tu peux l'avouer à ta coéquipière parce que c'est elle qui va t'aider à être forte. Et que c'est toujours à deux ou à trois avec le coach qu'on va être fort et qu'on va faire face à ce problème-là. Mais les adversaires, ils n'ont pas à connaître ton problème, en fait. Mais
il y a une question que je pose souvent parce que je trouve que, en fait, toutes les valeurs qui sont associées au sport de haut niveau ne sont pas forcément compatibles avec d'autres. Et souvent, je pose la question de est-ce que compétition, et en tout cas sport de haut niveau, est compatible avec la sororité, par exemple, pas l'amitié, mais en tout cas vraiment cet esprit de on se soutient et on est quand même bienveillantes les unes avec les autres, alors que potentiellement on est concurrentes. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez dans votre sport? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est possible?
Carrément.
Carrément.
En tout cas, nous on le vit au quotidien. Enfin, voilà, après de part aussi notre objectif qui est d'avancer ensemble, donc forcément on se tire pas dans les pattes, quoi. Enfin, on se soutient pour l'autre, on a hyper confiance, puis même au sein du club, enfin moi on a un grand groupe de filles, et puis on est trop contentes de faire de la compète ensemble. Et puis quand il y en a qui ont des projets pro à côté, qui prennent plus de temps, qui peuvent moins s'entraîner, on se voit à côté. Enfin, c'est vraiment des amitiés qu'on crée vraiment avec ce sport et qui font que on se soutient dans tous les cas. Et vraiment on est hyper hyper soudés, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est presque une spécificité de ce sport-là?
Je pense que je sais pas si c'est une spécificité de ce sport-là particulièrement, mais le fait que on rame en équipage et que faut le dire, une course ça fait très 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 mal, et que on souffre à ce point-là pendant 7 ou 8 minutes, mais on souffre avec des gens et que ces gens ils souffrent la même chose que nous. Finalement, ça rapproche énormément, et il y a toutes ces, dont on parlait tout à l'heure, toutes ces émotions, en fait, qu'on va vivre ensemble. Il y en a qui sont pas agréables, et pourtant, il va falloir les surmonter, et on les surmonte avec ces personnes, et ça amène énormément de respect, parce que dans un bateau, il faut se faire confiance, on sait qu'on vit les choses les uns pour les autres, etc. Mais les 5 autres bateaux qui sont alignés avec nous pendant une course, ils vont vivre la même chose. Et en fait, c'est ce respect entre les bateaux. Donc, au niveau national, ce sera que des bateaux entre clubs. Au niveau international, ce sera des gens qui vont pas parler la même langue. Et pourtant, ça nous empêche pas de bien nous entendre quand on est sur la berge.
Et ça, c'est quand même hyper cool. Et je pense que c'est ce respect-là de tout ce qu'on vit, de toute cette douleur qu'on peut ressentir pendant une course, qui fait que on respecte tout le travail qui a été fait derrière des autres filles qui vont être contre nous, en fait. Et ça c'est quand même cool, donc d'avoir ce petit truc de dire on est les unes contre les autres, que c'est au niveau national ou international,
on
sait ce que ça représente,
le travail, l'engagement, etc., de persévérance. Du coup oui, c'est ça, il y a ce respect. Quand on fait une médaille sur une compète internationale, on sent que tout le monde est trop content de monter sur le podium, peu importe la place, et on est trop contente de serrer dans nos bras les Italiennes, les Anglaises, comme si un peu genre on comprenait ce qu'elles vivaient, comme si on comprenait tout ce qu'on vivait.
Vous auto-congratulez de bravo, tu l'as fait,
c'est
quoi.
Ça. Exactement, parce que même si on est adversaire, même si après la course, en fait... on sait ce que les autres, comment les autres ont pu galérer pour arriver à ce niveau-là, ce qu'elles ont dû mettre en place dans leur vie, etc. Ouais. Et c'est un peu comme, c'est sûr qu'on pense à ça, quoi.
Ouais. Je crois que c'est toi, Claire, j'avais lu, t'avais noté quelque chose sur Instagram où t'avais dit vivre quelque chose d'unique à deux, c'est mieux.
Ouais. ouais, carrément.
C'est vraiment votre manière de voir les choses?
On a toutes les deux eu cette chance, et en même temps cette malchance, parce que c'est pas cool quand tu fais une compétition tout seul. Ça veut dire que ta coéquipière elle est blessée ou qu'elle est out quelque part, et on a toutes les deux eu la chance de faire un podium en solo sur une compète internationale. Et en fait, moi quand ça m'est arrivé, je me suis dit c'est pas cool, en fait, parce que t'es tout seul. Donc là en plus avec le Covid, tu te remets ta médaille tout seul.
Bravo, là t'es
c'est un peu ça, t'attrapes sur le plateau, tu te la mets autour du cou et tu fais là tu regardes le public et tu te sens un peu débile parce que t'es tout seul et tu peux pas sauter tout seul. Ouais. Tu peux pas embrasser celui qui a... enfin si, tu peux embrasser celui qui est à côté, mais du coup c'est ce sera forcément une fille d'une autre nation si c'est un podium international. Et tu te dis, c'est pas cool. Alors que quand on fait des médailles à deux, mais en fait, c'est multiplié par deux. Donc, j'ose même pas imaginer ce qui se passe quand on est en 8. mais c'est vachement plus cool quand on est à deux. Enfin, de le faire à deux, de le faire pour quelqu'un, en fait, ça donne... ça met des paillettes, ça épice le truc, quoi.
et pour le coup, tu vois, j'ai... Laura, toi, t'as fait championne du monde quand Claire était blessée, je crois, en 2018. Et j'ai écouté une conférence de toi où tu disais aussi que finalement, ce moment où tu t'étais retrouvée toute seule, ça avait aussi changé ton état d'esprit.
Ah, j'ai dit ça ?
Ouais.
Dans quel sens ?
Dans le sens où t'avais, à ce moment-là où tu t'étais retrouvée toute seule dans les compétitions et dans ton entraînement, finalement, t'avais pris du recul aussi sur... sur l'objectif, sur les médailles, sur tout ça, et que tu t'étais enlevé une dose de stress finalement de t'être retrouvée toute seule.
Carrément. Non, mais c'est trop ça, parce que oui, c'est vrai que on a tellement eu l'habitude d'être en équipage, de faire des choses, de faire du bateau tout seul. Nous, on le fait vraiment, c'est associé aux sélections. Enfin, moi, le bateau solo, clairement, c'est pas un pur kiff. Enfin, c'est vraiment associé pour moi dans ma tête à sélection. Il faut que je sois forte dans ce bateau-là pour avoir la chance après de continuer à l'international en double avec Claire, quoi. Ouais. Et vraiment, pour moi, c'est plus un point de passage que vraiment un kiff, parce que du coup, t'es tout seul sur ton bateau. Donc, parfois, il y a des entraînements qui sont cool, mais quand c'est moins évident, quand t'es fatigué et tout, c'est l'enfer. Alors que quand tu le fais à deux, tu sais pourquoi tu le fais, t'as envie quand même d'aller à l'entraînement parce que tu vois l'autre personne, etc. Et c'est vrai que je m'étais retrouvée un petit peu toute seule, du jour au lendemain quand Claire s'est blessée. Et en fait, la décision avait été prise par la Fédé de m'associer, d'y aller quand même en solo, quoi. Et c'est vrai que moi, j'y étais en mode je verrai ce que je peux faire, quoi. Et en même temps, j'avais cette peur parce que tu te retrouves tout seul, donc même pour tout, en fait, il y a une organisation. Je sais pas, avant la course, tu sais que à tel moment tu vas parler de ça avec ta coéquipière, de la stratégie, de la gestion du poids. Enfin, c'est vraiment un environnement. Ta journée est calibrée, mais t'es pas toute seule, tu le fais pour l'autre, avec l'autre, etc. Et du jour au lendemain, tu te retrouves un peu tout seul et tu sais pas par où commencer, etc. Et après, j'avais eu la chance de faire ce titre-là et c'était incroyable. J'avais vécu cette Marseillaise, mais c'était tout seul.
Ouais.
Donc c'était génial parce que je sais que une fois dans ma vie, j'aurais eu ce moment-là pour moi. Mais là, non, c'est clair que j'ai qu'une envie, c'est qu'on la rechante une fois et qu'on la chante ensemble, quoi, parce que je pense que Enfin, ça peut être multiplié par 150 000, quoi. Mais c'est vrai
on passe
que
de
oui,
2
ça...
à 150 000, quand même.
Ah ouais, non, mais
bah, c'est... la Marseillaise,
quand même, la Marseillaise, que... ouais, c'est pas rien.
Ouais, c'est un peu un objectif qu'on a. Et c'est vrai que bah, ce titre, oui, ça m'avait permis de me dire, OK, en fait, bah, quand tu te prends moins la tête, parce que clairement, en solo, bah, j'avais cette... c'est un peu paradoxal, j'avais cette partie où... je savais plus trop comment gérer parce que j'étais un peu toute seule et en même temps cette partie où bah en fait c'est que du bonus, normalement je suis pas censée être là, fais-toi plaisir et éclate-toi, et je me suis rendu compte que je me suis éclatée pendant toute la préparation et ça a conclu sur une super perf. Ouais. Et du coup après je m'étais dit bah en fait ouais c'est
continue
peut-être ton
de garder cet
bah,
état
c'est
d'esprit
ça,
là
c'est peut-être ton lifestyle en fait de d'être dans cet état d'esprit et ça je sais que bah on le ressent à deux aussi. Claire elle m'alerte tout le temps quand je commence à être un peu trop stressée ouais. par un truc ou un peu trop d'enjeux etc. Elle le sent tout de suite de par comment je me comporte et du coup bah elle me fait redescendre quoi et ça me fait du bien parce que je sais qu'en fait j'ai besoin d'être bah en légèreté comme ça pour être performante quoi.
C'est rigolo quand on regarde vos c'est rigolo c'est qu'à dire quand on regarde vos réseaux sociaux on sent que l'humour la bonne humeur
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
La bonne ambiance, tout ça, ça a une grande part dans votre binôme et séparément aussi. Est-ce que c'est un peu votre... Bah, je parlais de secret tout à l'heure, enfin, pas vraiment de secret, mais est-ce que c'est justement ça aussi qui vous permet d'être performante, cet aspect on se prend pas la tête, on rigole
Bah ouais, carrément. Bah, surtout que c'est pas un sport pro. Hein. Si on est là, c'est pour se faire plaisir, quoi. C'est pour kiffer, c'est pour profiter de ces moments qui... Bah, c'est pas éternel de faire ça. Ouais. Donc, à un moment donné, on sait bien qu'il va falloir qu'on arrête et qu'on bosse comme des gens normaux. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut profiter de l'instant présent. Donc, on se fait plaisir tout le temps au quotidien. Et c'est vrai que bon, y a pas de raison de cacher ce plaisir. Forcément, il y a des moments où c'est beaucoup moins cool. Mais on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est pour se faire plaisir à un autre moment. Donc en fait, ouais, il y a ces sur les réseaux où on affiche un peu cette vraie vie. Il y a les moments pas cool, on les met pas parce que c'est vrai que ça fait pas non plus plaisir aux gens de voir les moments pas cool.
Ça dépend.
Ça ouais, dépend.
Ouais, on est quand même transparent. Enfin,
là vous avez fait quatrième par exemple au championnat du monde. Vous l'avez tourné à la dérision avec votre médaille en chocolat. C'était vrai que c'était génial. Enfin, mais on sent qu'il y avait de la déception, ouais. Mais enfin vous en parlez quand même.
Oui, non, mais c'est ça. Mais comme dit Claire, enfin, franchement, on est là juste pour kiffer, quoi. Et on s'éclate, on a la chance d'avoir déjà vécu des trucs trop cool. On fait tout pour en vivre encore à nouveau. Et puis, bah, si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, bah, tant pis. Enfin, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Et avec du recul, on a vu qu'à chaque fois où on se prenait trop la tête,
ça fonctionnait pas.
Soit ouais. On faisait des stages de prépa vraiment pas terribles, soit on passait un petit peu à côté de la compète. Enfin, et du coup, en fait, on s'est rendu compte. Enfin, ça a été vraiment flagrant au jeu. Je pense que ça a vraiment exacerbé le truc parce que c'est les jeux et parce que bien que c'était les jeux, en fait, on s'est mis dans une espèce de bulle de bonheur toutes les deux à avancer le jour, jour après jour, en fait, sans jamais penser à la suite. Et en fait, vraiment, je pense que bah on a réussi à se préserver de cette pression, etc. Et juste d'être contente d'être là. Et du coup, on avait juste trop envie tous les jours d'aller sur l'eau. Le jour de la finale, on se disait, putain, on est déjà finaliste olympique. Enfin, et tout le temps, on avançait comme ça. Et du coup, on avait juste trop envie d'aller s'aligner juste pour faire une course super et peu importe le résultat, en fait. Parce que, bah, ça reste du sport. On sait pas qui sera devant. On a beau faire tout mettre en place, bah on peut pas agir sur la perf de l'adversaire à côté. S'il est plus fort, il est plus fort et c'est comme ça, quoi. Mais par contre, nous, bah qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vite, quoi. Et en fait, on a clairement vu que c'était en se prenant le moins la tête possible et en kiffant juste. Après, oui, il y a des jours qui sont moins faciles. Des fois, c'est facile de dire ça
oui.
Là, maintenant. Mais quand on est le jour J sur une compète importante et qu'on a envie de bien faire et qu'on a envie de performer, bah, faut aussi se rappeler dans quel état d'esprit nous fait aller vite, en fait, et pas tout mélanger.
Vous disiez au début que depuis votre médaille, il y avait plein de choses qui avaient changé. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies ou dans votre sport?
Oula!
C'est clair, elle est affichée en grand dans Paris.
Bah, j'allais en parler après.
Et Lolo, elle bâtit des immeubles. Là, il y a deux chemins différents qui ont été pris. Mais c'est vrai que, ouais, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Donc, il y a des contrats qui ont été signés. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de fou et d'énorme. Alors, ils sont pas tombés du ciel parce que forcément, c'est pas des trucs où on vient pas nous chercher par la main pour nous dire, oh, est-ce que vous voulez signer avec nous, hein? Ouais. Non, ça n'existe pas. Mais ouais, il y a des trucs qui ont été signés. Du coup, bah, ça nous permet un peu de professionnaliser notre sport et de dire, bah, voilà, là je peux vivre sereinement et en même temps je peux faire moi j'ai pas encore fini mes études, donc je peux faire mes études sereinement, l'école elle est payée, il y a pas de problème. Ouais. Je peux manger des produits qui vont me faire performer parce que voilà, je suis pas obligée de ramper dans les rayons pour aller acheter du Eco Plus et d'acheter quelque chose de qualité. Ouais. Voilà, en même temps, bon, bah, il y a aussi toutes ces interviews, tous ces trucs. Moi, ça m'était jamais arrivé. Bah, ouais, non, mais c'est sûr, c'est quelque chose qui, moi, ça m'était jamais arrivé. Je pense que, bon, Laura non plus.
Oui, non, c'est clair. On vous reconnaît maintenant?
Non, moi, ça m'est arrivé trois fois, mais c'était vraiment en rentrant des jeux, genre la semaine après les jeux. Donc, je pense que c'est parce qu'on nous a vus à la télé et voilà. Mais non, on reste quand même dans notre milieu, mais ce qui nous va très bien aussi, hein. Franchement, on fait de l'aviron. Si c'était pour être connu et tout, on aurait choisi un autre sport. Donc cette confidentialité nous va aussi très bien. Après, oui, c'est clair qu'on a eu la chance de vivre des trucs de ouf, hein, des shootings, des podcasts, rencontrer plein de monde. C'est vrai qu'on a eu la chance aussi de signer chacune avec un nouveau partenaire. Et, ouais. Et c'est vrai que comme dit Claire, ça tombe pas du ciel parce que. Bah, ça a quand même pris du temps, quoi. Enfin, là, on récolte un peu le fruit de ce qu'on
travail,
a... De, voilà, exactement. Mais un an après, quoi, quasiment. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu... entre guillemets, désillusion, dans le sens où moi, je me suis toujours dit, waouh, un médaillé olympique, tout le monde se l'arrache. Enfin, ça doit être ouf. Ils doivent crouler sous les demandes. Et en fait,
non.
C'est là-bas. On a loupé un truc, là ou...
Ouais, c'est ça. C'est comme... Et puis, il y a le nombre de trucs qui ont été refusés, en fait. Bah, c'est pas possible, ouais. En fait. Et c'est après,
on s'est dit aussi, mais de toute façon, faut pas qu'on change non plus notre. Enfin, voilà, on a réussi en étant comme ça. On va pas devenir Mbappé demain, quoi. Donc, on reste aussi lucide sur notre situation. Et après, on a eu la chance de pouvoir signer et puis mettre des gens aussi dans la boucle parce que c'est quand même une aventure qu'on partage. Là, les Jeux à Paris dans deux ans.
Ouais.
Après, on fait tout pour mettre les gens dans la boucle et que les gens nous suivent et qu'ils soient fiers de nous s'ils nous accompagnent, quoi. Donc.
C'est assez paradoxal, c'est-à-dire que vous dites que ça a changé des choses, effectivement, vous faites des interviews, vous avez signé des contrats que vous auriez peut-être pas signé si vous aviez pas été vice-championne olympique, et en même temps, ça reste tranquille.
Oui, ouais, c'est ça, c'est quand même... Il y a toujours ce petit truc où on se dit... c'est comme quand on regarde les photos, genre c'est détaché tout ce qui ne nous touche pas à l'instant présent. Donc là par exemple, on est dans un studio, on fait un podcast, mais en fait on reste toujours le centre de notre petit monde.
Ouais.
Et c'est un peu égoïste de dire ça, mais c'est toute cette affluence médiatique et professionnelle, en fait à l'instant T, à l'instant présent, ça nous touche pas parce que on reste nous-mêmes. Et moi j'espère que si un jour nos pieds ils quittent le sol et qu'on monte un peu trop haut, l'autre ou quelqu'un de notre entourage moi je compte en tout cas sur Laura pour me le dire, de me redescendre les pieds sur terre en disant attention, là, la perf, elle en pâtit. Attention, là, t'es montée un peu trop. Reste-toi, redescends sur terre. Et quel est l'objectif? Qu'est-ce qui va arriver si tu continues sur cette voie-là, quoi? Donc, toujours rester nous-mêmes. Et à la base, on est des sportifs de haut niveau et on est des rameuses.
Et on a chacune un fil rouge à suivre dans notre vie. Et c'est pas parce qu'il y a plein de trucs à côté qui se passent qu'il faut qu'on quitte de trop loin ce fil rouge. Il faut qu'on profite de la vie. Mais en fait, comme on l'a toujours fait avant, toujours en gardant cet objectif de la performance qui ne doit pas en pâtir.
Vous dites, c'est vachement humble de dire ça. Je ne le dis vraiment pas du tout de façon négative. C'est vachement humble. Mais vous trouvez ça normal, en fait, que certains sportifs qui ont les mêmes médailles, par exemple quelqu'un qui aura aussi fait vice-champion olympique en même temps que vous, et un traitement médiatique différent parce qu'il est dans un autre sport.
Ouais, il y a des fois ça peut énerver, hein. Enfin, ça énerve un petit peu.
Ouais.
Surtout, quand on voit des sommes astronomiques de sportifs dans d'autres sports, c'est indécent, quoi. Et parfois ça peut énerver, mais en même temps, je me dis pour rien au monde, je voudrais devenir connue. Enfin, moi, laissez-moi dans mon petit coin, ça va très bien. Franchement, je suis hyper heureuse de ce qu'on a. Après, c'est juste, on a essayé, nous, de par notre pratique, de par notre résultat, là, cet été. C'est vrai qu'on a eu un peu de visibilité.
Le faire fructifier.
Exactement. Et puis surtout pour notre sport. Enfin, l'aviron, c'est un sport génial qui est pas hyper connu en France, alors qu'il y a des plans d'eau superbes, il y a des clubs partout. Et
c'est quand même un sport qui ramène des médailles à la France.
Oui, bien sûr, à chaque Olympiade.
Tous les jeux, donc.
Et du coup, on a essayé de le faire aussi pour notre sport, quoi. Et du coup, c'est chouette. Mais après, en terminant purement personnel, moi, je suis même si parfois ça agace, on se dit mais pourquoi. Enfin, je suis sûre qu'ils s'entraînent pas plus que nous. Tout ce qu'on met en place. Enfin, on doit concilier études, sport. Après, trouver une entreprise qui accepte d'avoir un sportif de haut niveau dans son entreprise, c'est pas facile. Et d'essayer de un petit peu tout combiner comme ça. Parfois, on a des journées. Enfin, c'est la galère, quoi, clairement. Et on se dit mais en fait, dans d'autres sports, enfin, ils sont à des débuts de années-lumière de penser qu'on galère comme ça, quoi.
Ouais.
Et du coup, parfois, ouais, ça peut énerver. Mais après, on le sait, c'est l'aviron. Et puis, petit à petit, nous, on essaye aussi de
faire un peu changer les choses.
Ouais, exactement, carrément, à notre humble niveau. Et voilà.
Bah, je pense que c'est quelque chose de quand même assez important de se dire que peut-être à un moment donné tous les sports étaient sur un pied d'égalité et que ça a été un peu plus médiatisé, donc ça a été un peu plus connu, les gens se sont prêtés au jeu, on dit oh il est cool ce sport, et finalement le sport est monté en laissant dans l'ombre plein d'autres petits sports derrière et qui en fait sont des disciplines super et qui mériteraient d'être un peu plus connues. Mais c'est vrai que on peut profiter de cet éclairage olympique pour dire on existe aussi et c'est un super sport, venez essayer, que les gens en parlent de plus en plus. Et même moi j'ai l'impression que quand même ça a pas mal marché depuis Tokyo, qu'on parle un peu plus d'aviron un peu de partout, quoi.
C'est vrai qu'en plus vous avez votre le pendant masculin, j'ai envie de dire, avec Hugo et Mathieu.
Exactement.
Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros coup de projecteur sur votre perf, et d'ailleurs ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de médaille féminine en aviron. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projecteurs sur l'aviron. Et c'est vrai que du coup, on en parlait rapidement tout à l'heure, mais on a quand même une mannequin internationale avec nous aujourd'hui.
C'est clair.
D'ailleurs, je peux vraiment le dire, c'est-à-dire que tu avais ta tête affichée vraiment en face de chez moi.
Ah mince.
Mais vraiment, là, tu travailles.
Elle veille sur toi.
Je pense que t'y es plus, mais pendant quelques semaines ou une semaine ou deux, t'as été vraiment juste là, en face de chez moi, sur l'affichage dans la rue. T'as signé un contrat, enfin, t'es l'ambassadrice de Mauboussin.
Oui, c'est ça.
Comment ça s'est fait, en fait?
Après les Jeux, j'ai été contactée par Rachel Young. Donc elle, c'est une agent d'athlète comme ça. Et c'est vrai que moi, étant plutôt de nature timide, je déteste aller quémander, aller demander. Et c'est quelque chose qui me met très très mal à l'aise. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, là, il faut quand même que je profite de cette médaille parce que j'en ai aussi besoin, que c'est pas tous les jours que ça arrive et qu'à un moment donné, je vais certainement regretter de pas l'avoir fait. Donc, j'ai répondu par la positive à Rachel et elle me dit, elle m'appelle comme ça directement. Je me dis, ouais, c'est rapide. et puis elle me dit, donne-moi quelques
quelques marques qui te tiennent à cœur et que tu aimerais vraiment qu'on aille chercher ensemble. Donc bah moi, débutant en blanc, bon, c'était surtout pour rire et pour la blague au début, je donne Mauboussin parce que bah j'étais pas loin d'un arrêt de tram, il y avait une pub Mauboussin que je voyais. Non mais surtout
comme quoi, à quoi ça tient, tu sais.
Surtout que en fait je la voyais tous les jours et à chaque fois et il y en a régulièrement sur cet arrêt de tramway là qui est à la fac, donc je le vois tous les jours et je me dis à chaque fois, je me dis quoi, ils font des trucs super quand même. Et quand je passe à la Pardieu, à la boutique, devant la boutique, c'est des boutiques dans lesquelles on peut pas rentrer comme ça. Faut appuyer sur la sonnette pour que quelqu'un ouvre. Et à chaque fois, je me dis waouh, ils font des trucs super. Et donc c'était pour la blague. Je me suis dit oh, Mauboussin. Et après, elle me dit ok. Je dis non mais elle va vraiment le faire. Et elle l'a vraiment fait. Et finalement, on a eu un premier rendez-vous qui s'est quand même bien passé. Bon, sur le coup, j'avais un peu les mains qui tremblaient. Je me dis non mais c'est pas possible. Vraiment, on va vraiment faire ça. Alors heureusement qu'elle était là parce que sinon, j'y serais jamais allée au rendez-vous. Et finalement, bah ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens géniaux. Et au premier shooting, je me suis dit quand même c'est tout un métier. D'être mannequin, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Mais en même temps, moi, ça m'a aussi permis de me lancer un défi personnel et qui m'a beaucoup aidé sur le plan de la communication, de faire ressentir, de travailler des parties du corps que je travaille pas. Alors, le placement des mains, contrôler, en fait, rester dans le contrôle, mais en même temps se lâcher prise. Et bah ça, c'est quelque chose qui est aussi complémentaire avec la pratique sportive. C'est quelque chose que je fais jamais. Et finalement, bah ça m'a quand même beaucoup aidée. Et c'est comme ça que bah, je me suis dit, c'est un partenariat génial. Et voilà. Et surtout, quand j'ai vu le résultat du shooting, que je suis descendue de mon appart le matin pour aller à l'entraînement, dans un sens, c'était une pub avec... Nathalie Portman. Et je me suis dit, waouh. Et en fait... sur le coup, je vois Nathalie Portman avec la pub pour le parfum, etc. Et dans l'autre sens, je vais à la fac, et là, je me vois, je fais « Oh, c'est moi !» Et après, je fais « Alors, je suis en face-to-face avec Nathalie Portman. C'est génial !» donc voilà, ça, c'était la grosse surprise. Et finalement, c'est un truc incroyable. Et en même temps, j'en reste quand même assez détachée parce que j'habite un peu loin de tout ça. Le fait d'aller à l'entraînement tous les matins, d'être sur ce bateau, d'être au calme, en fait, c'est dans un monde un peu parallèle et de pouvoir switcher entre ces mondes études, vie professionnelle, aviron. En fait, c'est ça qui aide un peu à garder les pieds sur terre. Mais ça, c'est génial.
Et à trouver un équilibre, j'imagine.
Ouais.
C'est quand même fou. Tu vois, tu parlais du côté un peu confidentiel de votre discipline. Là, la confidentialité, on repassera. Parce que...
Bah ouais, mais on me reconnaît pas du tout. On me reconnaît pas trop sur les affiches.
C'est vrai.
Parce que une fois j'étais assise au tram, j'étais juste à côté de moi-même.
Regardez, c'est moi.
Regardez. Et du coup non, personne m'a reconnu. Et je me dis bon, ça va, en fait, je peux rester un peu cachée et garder cette petite bulle qui reste ma bulle à moi, ma bulle personnelle, mon quotidien qui n'a pas changé. Et en même temps d'avoir ces affiches en 4x4, je me dis what. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de très paradoxal, mais qui est très très drôle.
T'avais noté aussi une phrase que j'ai notée, je trouvais ça intéressant, sous un poste justement après sur ton shooting, où tu mettais « c'est pas parce qu'on est athlète de haut niveau qu'on ne peut pas être féminine et jolie, et envie d'être parée », j'enlève la phrase d'après, mais « et envie d'être parée de diamants comme une princesse
». Bah c'est vrai.
Mais ce rapport justement aussi à la féminité, vous, comment, quel est votre rapport en fait à votre corps et à votre féminité en étant sportive de haut niveau, et c'est votre instrument de travail aussi, quoi.
Carrément. Après, c'est clair, mais c'est un truc à jongler aussi, parce que parfois, enfin, moi qui suis quand même assez féminine, mais normale, quoi. Et c'est vrai que quand on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, qu'on a des journées à rallonge, etc., parfois on a quand même ce sentiment de l'oublier un peu quand on est en stage et tout. Et puis après, on se dit, ah non, mais là, on sort, genre je me fais moi Laura pas sportive, et c'est cool de switcher un peu. Mais c'est vrai que le sport prend tellement une place importante. Après, on peut carrément être féminine en faisant du sport, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai que c'est un petit truc à trouver, quoi.
Ah ouais, quand on est 200 jours en stage par an, que ça veut dire qu'on passe quand même 200 jours soit en jogging, soit en combinaison lycra moulante, qui est absolument pas sexy du tout. Et en stage, rien que le fait d'enfiler un jean.
Ah, mais c'est clair, des fois on met un jean, on est refaite.
C'est vachement bien ça.
Non, mais c'est ça. C'est que on enfile un jean pour aller faire des courses au Super U et on a l'impression qu'on se pimpe de ouf, quoi. Alors qu'en fait, on a juste mis un jean. Donc, ce truc de pouvoir dire, bah, je mets une paire de boucles d'oreilles, je mets un collier, je mets un tout petit peu de mascara parce que voilà. En fait, ça fait vraiment du bien de se sentir.
C'est important pour vous de garder cet aspect-là.
Bah, ça nous remet un peu dans ce monde réel parce que, ouais, le sport de haut niveau, c'est bon, bah voilà, jogging, basket, combinaison moulante, super, mais en fait, c'est pas la vie réelle, c'est pas la vie de tous les jours. Et en fait, bah, de mettre un petit top, un jean, etc., de sortir dans la rue et bah, d'être jolie, même juste pour aller faire ses courses. Mais c'est un peu apaisant aussi. Ça nous sort de ce stress de la performance quand ça prend trop de place pour nous. Quand l'entraînement, bah, ça va pas forcément, bah, voilà, ça nous sort aussi, ça nous change les idées, ça nous change la tête. Et puis voilà, il faut pas oublier aussi que bah on fait de la musculation, on a un corps qui sort des standards féminins, même si ça a tendance à changer. Aussi on est en poids léger, donc quand on est au régime, qu'on est à 57 kilos, bah ouais, on voit les veines, on voit les muscles. Ça sort de ces standards de féminité et c'est pas forcément quelque chose que on apprécie et qui nous rend à l'aise avec notre corps. D'accord. Et puis même moi, en étant en kiné. Bon, j'ai un rapport tout à fait différent au corps parce que ça fait partie du corps médical. On en voit parce qu'on est en TP, qu'on est en sous-vêtements avec les autres. Chacun a un corps différent. Mais c'est vrai que d'avoir un corps sportif, des fois, on n'est pas hyper à l'aise avec quand on se retrouve dans une masse de corps, normaux, pas sportifs, pas aussi musclés, beaucoup plus féminins, etc. Et donc, en fait, bah, de se sentir, d'enfiler un jean, de mettre ses bijoux, de se maquiller, de mettre un peu de parfum et juste de marcher dans la rue, ça nous remet dans cette normalité qui fait juste du bien, quoi.
Ça allait être ma question d'après. Hein. Puis il y a un documentaire qui vient de sortir sur Arte qui s'appelle Toutes musclées.
Okay.
Et en fait, où il parle du corps de la femme et justement du muscle, comme quoi ça a toujours été associé à l'homme et que le corps féminin n'avait pas à être trop musclé parce que sinon il se rapprochait trop du corps masculin et qu'on sortait de la féminité et que le muscle n'était pas associé justement à la féminité. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez parce que c'est vrai que vous faites un sport où en plus vous développez beaucoup le haut du corps. Je veux dire, vous ramez quand même, donc forcément, quand on vous voit sur les vidéos, on voit que vous êtes musclé du haut du corps, des épaules particulièrement. C'est quelque chose qui a pu vous complexer et vous déranger ?
Moi, jamais. Après, j'ai un gabarit qui fait que je prends un peu moins de... Enfin, ça se voit un peu moins que je suis musclée, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça trop beau, des femmes musclées. Enfin, vraiment, je trouve que le corps, il est magnifique, quoi. Il y a des athlètes, je les trouve juste trop belles et puis moi, enfin non, ça m'a jamais. J'avoue que moi, j'ai jamais eu de complexe à ce niveau-là, quoi. Même au contraire, je me dis, bah, on est athlétique. Enfin, voilà, c'est aussi joli, quoi. Après, c'est sûr que ça sort de ce qu'on voit entre guillemets habituellement. Et c'est vrai que parfois, celles qui sont vraiment très musclées, bah, je sais qu'elles ont parfois déjà eu des réflexions, des etc. Remarques, ouais. Et parfois, elles se sentent moins à l'aise. Mais ouais, non, pour ma part, ça m'est pas trop encore arrivé.
Bah, moi, ça m'est déjà arrivé de me sentir mal à l'aise dans certaines situations, pas dans le domaine et pas dans mon cercle proche, parce que bon, bah, mon cercle proche, voilà, ils sont quasiment tous sportifs, que ce soit des amis, que ce soit la famille, etc. Donc même non, ça me gêne pas du tout. Même moi, j'aime mon corps comment il est. Je fais de la musculation et j'aime bien quand je me sens forte. Les muscles ils sont dessinés sur les bras, etc. Donc bon, j'ai déjà eu les réflexions, waouh, t'as des gros bras, etc. Non, bon, bah ça c'est pas la réflexion qui te fait trop plaisir, quoi. Généralement, genre voilà, bon, maintenant je le tourne à la dérision en faisant le bodybuilder, en contractant les muscles, etc. Et bon, bah souvent ça fait rire en soirée. Donc voilà. Mais c'est surtout le côté où quand tu vas faire les magasins, bah t'as des cuisses musclées, donc bah un jean, t'es censé pouvoir rentrer dans un 38 et en fait bah il te faut un 42 parce que tes cuisses elles passent pas. Mais du coup bah c'est trop grande partout.
Ouais.
C'est pareil quand tu mets une petite robe de soirée avec des bretelles hyper fines et que t'as les épaules super musclées, que t'as les pecs saillants plus que les seins, bah c'est un peu dérangeant parfois. Et
Et c'est là où, bah, moi, des fois, je me sens un peu moins à l'aise, bah, c'est quand tu t'as pas des vêtements à ta taille et que tu te sens pas à l'aise dans tes fringues parce que, bah, soit elles sont trop serrées, soit ouais. parce qu'elles sont trop grandes, etc., etc. Ouais. Et ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement déranger quand, t'arrives pas à te sentir jolie dans tes fringues parce qu'il y a rien qui te va, mais... parce que tes muscles sont pas au bon endroit, quoi.
Mais du coup, c'est la société qui te met mal à l'aise, finalement. C'est parce que les vêtements sont pas taillés de telle manière, c'est pas parce que toi, tu sors de la norme. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, moi, c'est pas mon point de vue personnel, bah en ouais. fait. Dans ma propre petite bulle, non, je me sens à l'aise. Mon corps, il est très bien comme il est et j'ai pas de problème. C'est juste, en fait, quand on doit rentrer dans ce moule de la société, que la société impose, c'est là où, des fois, tu te sens pas à l'aise. Et aussi là où, bah, moi, des fois, je prends sur moi, je me dis, non, bah oui, bah, ok. Là, c'est comme la timidité. Genre, tu te dis, ok, non, là, je suis pas timide, je prends sur moi. Et en fait, ça va bien se passer. Et après, ça se passe super bien. C'est juste un premier pas à faire et où tu te dis, bon. Voilà, en fait, maintenant qu'il est fait, ça va.
Pour finir un petit peu, du coup, le podcast, j'avais une question forcément, parce que, voilà, Paris 2024, dans 2 ans, comment vous envisagez ça? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous angoisse? Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression supplémentaire parce que vous avez déjà fait une médaille il y a 2 ans, enfin, 1 an? Quelle est votre approche de Paris 2024?
Bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de Paris 2024, la médaille, etc. Mais nous, on a plus cette philosophie de dire step by step. Et c'est vrai que pour l'instant, il faut déjà se qualifier. Mmh. Et c'est un objectif qui est très très proche, mais en même temps qui est très très loin parce que ça va faire des centaines et des centaines de kilomètres en bateau entre nous et ces courses qui vont se dérouler. Donc oui, déjà, il faut se passer par la qualification en équipe de France. Ensuite, il faudra passer par la qualification du bateau aux Jeux Olympiques et repasser par cette qualification en équipe de France pour monter dans cette coque qui sera potentiellement qualifiée aux Jeux. Et ensuite, ne pas se blesser pour aller jusqu'aux Jeux, quoi. Donc ça fait plein de petites étapes et tous les jours, il va falloir faire chaque coup de pelle le plus précis possible, s'entraîner le plus intelligemment possible pour pas passer à la blessure. Et en même temps, il faut pas oublier que dans la tête, ça se joue là, quoi. Donc, il faut pas non plus que ça devienne quelque chose de trop prenant, cet objectif. Il faut qu'on profite de notre vie. Il faut que on profite de nous-mêmes pour que, mentalement, ça aille bien. Parce qu'il y a que dans ce bon mood et on le sait que ça avance bien, quoi. Donc, il va pas falloir surcharger la tête en pensant H24 à l'objectif. Ouais. Il est loin, on le garde dans un petit coin de la tête. Voilà, il est là. Quand ça va pas, on le ressort, on dit, c'est pour ça qu'on fait ça. Et quand ça va, on le range et on profite de ces moments où ça va, on prend toutes ces bonnes ondes pour nous et voilà, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Non, c'est vrai que parfois, après, parce que les gens connaissent pas aussi le système de qualification, etc. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que cette médaille à Tokyo, ça assure, entre guillemets, un résultat de ouf à Paris. Alors que pour nous, ça paraît tellement loin parce que faut tout refaire, quoi, et faut tout refaire encore mieux parce que le niveau aura évolué d'ici là. Et du coup, nous, on est hyper lucides sur le fait que, en fait, c'est du sport et on peut pas là je mets pas ma main à couper que on sera au jeu, que on sera sur le podium au jeu. Enfin, on le sait pas en fait, mais après, on met tout en place pour réussir. Mais non, ça reste. Enfin, on sent qu'il y a cet environnement autour, bien évidemment. Certainement, on va parler un peu plus de nous que si c'était des jeux autre part, etc. Mais après, je pense qu'on a toutes les deux cette lucidité de, je pense quand il y en a une qui va un peu plus stresser à cause de ça, etc. Ou de lui faire redescendre les pieds sur terre et de dire, ok, non, mais là, on commence à partir un peu dans notre délire. On se reconcentre sur la perf parce qu'en fait, c'est pas en écoutant les autres dire qu'on va être médaillé à Paris qu'on le sera en fait. Enfin, du coup, il y a vraiment tout à refaire. Et mais après, c'est un objectif hyper motivant et c'est trop cool, quoi. On n'a qu'une envie, oui, c'est de réussir devant le public français, quoi. Mais par contre, c'est pas en le disant comme ça que, enfin, faut qu'on
ça va se faire
exactement, ouais, quoi. Donc,
en claquant des doigts,
exactement.
Allez, hop, magique.
Donc non. Après, c'est clair qu'on va tout faire pour, mais on peut rien garantir. Ça reste du sport, quoi.
Vous sentez qu'il y a une pression supplémentaire sur les épaules des athlètes français?
Franchement, non. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Peut-être qu'il y en a qui vont le ressentir parce que, ça va être des Jeux à Paris. Donc, forcément, il va y avoir plus de demandes d'interviews, plus de demandes de médias, etc., etc. Après, avant les Jeux de Tokyo, on n'en avait pas. On en avait quelques-unes, on a fait avec. Là, autant se dire que s'il y en a plus, bah, ça peut toujours nous servir et le mettre au service de notre performance. Et en même temps, de dire que bah, ça reste des pensées, c'est pas physique, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qui peut nous atteindre. C'est comme un courant d'air, quoi. Genre, c'est, on peut passer au travers et en faire fi sans qu'il y ait de problème. Donc, si les gens pensent que on va faire une médaille d'or, si les gens pensent que on va se planter total, ben, ils peuvent le penser. Ça reste dans leur tête, quoi. Et ça nous atteint pas nous. Et il faut quand même garder ça à l'esprit, c'est que la performance est. C'est nous qui allons la faire et en même temps, on va la faire pour tous les gens qu'il y a à côté. Mais ça restera notre performance et il n'y a que le chemin qui va nous mener à cette perf qui va rester à la fin, quoi. Donc, il faut qu'il soit beau pour qu'on ait des bons souvenirs et en même temps, il ne faut pas se perdre, quoi.
Ouais, exactement. Mais du coup, ouais, je pense qu'on a vraiment cette chance de pouvoir dire à l'autre quand on sent que... qu'elle se fait prendre par des événements, par des sollicitations, par, enfin voilà, c'est vrai que là on a cette année, enfin l'hiver dernier, on a énormément profité, on était à fond pour ça, vraiment, on se l'était dit là, l'année 2022, c'est entre guillemets une année de transition où on profite de ce qu'on a eu parce qu'une médaille olympique, bah on s'en rend compte encore plus maintenant que ça arrive pas tous les jours et ce serait une chance, enfin ce serait un truc de ouf que ça arrive une seconde fois. Mais en fait, on a, enfin, moi, je regrette pas du tout. On a tellement bien fait de profiter d'être. Et là, on est ressourcés à fond dans la tête. On a trop envie. Il reste 2 ans. 2 ans, c'est court, mais en même temps, ça peut être long si ça va pas, quoi. Donc, et en même temps, bah, quand il y aura ces sollicitations, bah, il faudra que l'autre et que notre coach, il soit hyper lucide sur le fait que, ok, est-ce que c'est obligé ça ou est-ce que ça va entacher la perf? Est-ce que non, là, Laura, tu t'égares un peu trop? Vraiment objectif perf quoi, objectif aviron, là c'est pas, et du coup je pense que c'est hyper important d'avoir cet entourage et la coéquipière pour un peu avoir cette lucidité des fois quand on a envie de tout faire quoi, sauf ouais. Que des fois c'est dur de tout bien gérer quoi.
Et ben écoute, on verra bien comment ça se passe pendant les 2 ans et j'espère qu'il y aura pas de blessure et puis et que ça continuera à bien se passer. C'est vrai que 2 ans c'est très particulier parce que là c'est et long et court. On se dit 2 ans c'est demain et en même temps en 2 ans il peut se passer des milliards de trucs. Donc moi je vous souhaite que ça se passe bien.
Merci.
Bah, je vous souhaite que ça se passe bien. Pour finir je voulais juste faire, j'ai 4 petites phrases de laquelle est la plus. Je voulais quand même le faire. Pour finir sur une bonne, ça va finir en baston. Ah,
c'est ça. Bon, bah, en fait, elles rament plus ensemble, elles se sont oubliées à la sortie du podcast.
Ouais, c'est ça, non, là, ça va pas aller du tout.
Merci Cléo.
Il y a des coussins, là, ça va finir en bataille de bolochons, les gars. Moi, je vous le dis.
Bon, il y en a 5, ça va.
Ok.
Laquelle est la plus mauvaise perdante?
Oh, Claire. Ouais. 100 fois.
C'est vrai?
Ah oui.
Non, ça c'est juste parce que je veux toujours avoir raison. C'est pas pareil.
C'est pareil. Hein.
T'aimes pas perdre. Ça te...
J'aime pas perdre, mais je finis par l'accepter quand même. Hein.
Laquelle fait le plus de blagues à l'entraînement?
Fred.
Ouais, notre coach.
Le coach
aurait en plus.
Oh ouais, c'est vrai.
C'est lui qui. C'est bien, vous avez un entraîneur du coup qui vous fait des blagues et qui détend l'atmosphère.
Bah ouais, carrément. Il fait des blagues en même temps quand faut être sérieux, il est sérieux. Non, ce gars.
Très bien. Laquelle s'entraîne le plus?
Là, moi.
Ah ouais.
Ouais.
C'est clair.
C'est vrai. Vous avez des différences dans vos entraînements. Toi, tu bosses à côté.
Ouais, je travaille à côté. Après, c'est aussi, enfin, je sais pas. Oui, je pense qu'en termes d'heures, Claire s'entraîne plus. Après, ouais, c'est juste que bah quand, par exemple, moi, quand je sens que j'ai besoin de me vider la tête, genre un week-end, juste de faire par exemple le dimanche off alors qu'il est pas prévu, bah j'ai pas trop de mal à le prendre et parce que je sais que ça me fera beaucoup plus de bien pour revenir fraîche, même des fois 24 heures sans, juste en, je sais pas, en partant à la montagne, etc. Ça fait du bien. Enfin, moi, j'ai besoin de partir un petit peu de ce cadre de l'aviron que parfois, Claire, quand ça va pas, elle
sait faire du sport.
Elle sait faire du, c'est s'entraîner, faire du bateau ou faire autre chose que moi, en fait, c'est juste pas faire du sport, quoi. Et du coup, c'est, ouais, je pense que la différence se fait à ce moment-là, mais sinon, on s'entraîne toutes les deux quand même beaucoup.
Ouais, bah, j'imagine bien, c'est bon, ça. Là, c'était la petite question. Je me suis dit qu'à mon avis, la différence allait pas être énorme.
Non, il y a le programme. Le programme, on s'y tient. Et après, c'est juste des petits extras. Ouais. C'est juste pour faire du bien à la tête. C'est que bah, Laura va avoir besoin d'aller respirer l'air frais différent. Au sommet des montagnes. Et moi, bah, je vais avoir besoin de faire tourner mes poumons et mon cœur à fond.
De cartonner.
Voilà, c'est ça.
C'est juste cette petite diff, quoi.
Très bien. Laquelle des deux a eu le plus de mal à se remettre de la médaille olympique ?
Laura.
Ah ouais ?
Ça y est.
Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Carrément.
Bah ouais, je pense. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai bien vécu. Après, c'est vrai que j'ai détaché un peu mon cerveau de ça. Et c'est ce truc de se dire, oh, bah, c'est quelqu'un d'autre sur les photos, tiens. Mmh. Et ouais, non, je sais pas.
Ouais, si, je pense. Bah ouais, on a vécu des trucs de ouf. Donc pendant 2 mois, c'est l'éclate, c'est incroyable, c'est H24, c'est faire la fête tout le temps. Et puis c'est vrai que nous, ça faisait un moment, puis le report d'un an des Jeux, le fait qu'après, ce soit ambiance Covid tout le temps, donc on voyait pas nos proches les derniers mois de la prépa, ouais. C'était limite, c'était très psychorigide, c'était très, là, je vois une personne, c'est susceptible de m'amener le Covid, enfin, on était quand même un peu dans ce mood-là, quoi.
Dans donc, une peur constante, de la pas peur, pouvoir concourir.
L'épée de Damoclès sur la tête, mais jusqu'au jour de la finale, hein, il y avait des gens qui se faisaient disqualifier, même à Tokyo, enfin, hein, c'était vraiment une pression constante, et du coup, après, on a tout lâché pendant... Et du coup, c'est monté très très haut. Et après, bah ouais, j'avoue que l'hiver, quand tu te retrouves tout seul chez toi sur ton canapé et tu dis, oh, tu regardes les photos, les vidéos, tu fais, oh, wow, mais c'était trop bien. Et là, t'es là et t'as pris 10 kilos et ton corps, t'as juste fait la fête pendant 6 mois. Tu dis, bah en fait, si j'ai envie de revivre ça, il faut quand même que je songe à m'y remettre. Du coup, ça prend un peu de temps après.
Ouais, c'est sûr que, bah là, pour le coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes études à côté. C'est que, bah en fait, moi, le 1er septembre, il fallait que je sois à la fac, quoi. Ouais. Donc,
t'as pas eu le choix.
Donc, ouais, j'ai pas eu le choix, en fait. Direct. Moi, j'ai repris le rythme. J'ai dit, bah, pour le coup, je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner. Si j'ai pas le temps, bah, je m'entraîne pas. Et pour le coup, mais j'étais obligée de rester dans la vie réelle et de m'en remettre vite parce que j'avais besoin d'être, performante à l'école, pour pas louper mes examens de janvier. Et je pouvais pas me laisser aller indéfiniment pour que ça aille pas. Donc en fait, j'ai fermé les yeux sur ce qui s'était passé l'été pour me remettre dans la vraie vie et j'ai switché direct. Et donc c'est passé vite.
Et dernière question, laquelle des deux, à votre avis, fera la plus longue carrière dans l'aviron? Vous n'avez pas le même âge, mais c'est pas grave.
Ouais, ouais. Qui a commencé avant?
T'as commencé quand?
Moi, j'ai commencé en minime 1.
Cadette.
J'ai 2 ans d'avance. Non, franchement, je sais pas.
C'est pas
Los Angeles?
Non.
Bon, bah moi, alors.
Non, je sais pas.
Ouais. Ton objectif, là, pour le moment, c'est Paris et t'es pas sûr d'après?
Ouais, c'est Paris. Bon, en fait, moi, même après Tokyo, j'étais pas sûre de Paris. Donc, en fait, vraiment, je prends comme... c'est ça. En fait, après Tokyo, aussi avec mes proches, l'aviron, c'est quand même... Enfin, le sport de haut niveau, c'est quand même assez égoïste aussi, dans un certain sens, parce que notre vie, elle est un peu tournée vers ça. Même si c'est pas des sacrifices, parce que c'est pas un mot que j'aime bien, mais il y a forcément des gens qu'on met dans la boucle qui ont rien demandé. Qui accepte le fait qu'on parte 200 jours par an en stage, que on peut pas avoir une vie entre guillemets normale, sortir souvent, etc., bien profiter, même si j'essaie de garder ce côté-là pour avoir cet équilibre. Mais c'est vrai que c'est des choix de vie, quoi. Donc il faut que tout le monde soit ok pour que moi je sois bien dans ma tête, que tout le monde soit bien et qu'on avance. Et c'est vrai que après Tokyo, on a pris cette décision, on a déménagé avec mon compagnon, etc. J'ai changé de lieu d'entraînement. Enfin, c'est quand même des choix assez importants qu'on fait. Donc faut juste être sûr d'être ok dans la tête et de partir à fond, parce que c'est pas un projet qu'on peut faire à moitié, quoi. Ouais. Donc voilà, moi je prends année après année là Paris à fond, on verra après, mais je me prends pas trop la tête. Ça a toujours été comme ça.
ouais, je sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai réalisé, c'était en 2018, j'ai réalisé, pendant que j'étais en surentraînement, moi j'étais out et c'est là où j'ai réalisé quel sacrifice j'avais fait pour arriver jusque là et je me suis dit que, j'avais sacrifié pas mal de personnes sur la route et que finalement c'était des moments, chacun avait pris son chemin et que, on pouvait pas revenir en arrière pour prendre le même chemin que ces personnes et, c'est des sacrifices que j'ai fait sans en prendre conscience. Ouais. Et que parfois je me dis c'est dur quand même, et en même temps là je peux pas regretter parce que j'ai quand même vécu énormément de choses trop cool. J'ai accepté de faire ce sacrifice. Maintenant que j'en ai pris conscience, maintenant j'y réfléchis à deux fois avant de dire non à un événement, avant de dire non pour rentrer à la maison et revoir mes amis. Parce que je les ai sacrifiés sur le chemin et il y a des trucs que j'aurais, en réfléchissant maintenant, je me dis ça en fait j'aurais pas dû, Et je regrette rien parce que voilà, c'est fait. Et si c'était à refaire, bah, je le referai parce que j'ai vécu trop de trucs trop bien entre temps. Et je sais que, bah, j'ai des amis super qui sont toujours là et que je sais que quand j'aurai fini le sport de haut niveau, même si là, je les vois pas autant que je voudrais, bah, je pourrais pas rattraper les moments qui sont partis, mais revivre des trucs avec eux dans le futur, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon, bah, Los Angeles, peut-être. Hein.
Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est dur de se projeter loin, parce que c'est quand même dur ce qu'on veut au quotidien, même si c'est incroyable, c'est des engagements, etc. Donc, c'est utopiste, je pense, de dire
oui, voilà, c'est ça,
on sera là à telle année.
C'est ça. Puis le corps, il s'use. Quand tu commences à avoir mal au genou, mal au dos, mal partout, tu dis ça va pas, et qu'en même temps, il faut refaire le régime, et que tu dis descendre à 57, encore. Non. Et donc là, on a l'objectif des Jeux de Paris 2024, mais est-ce qu'à Los Angeles, je serai encore là et mon corps sera encore en état? Est-ce que j'aurai encore envie? Est-ce que je n'aurais pas changé complètement de voie pour faire quelque chose d'autre? Est-ce que je ne serais pas kiné à temps plein? Est-ce que je n'aurais pas choisi de venir, de faire un diplôme supplémentaire? Je ne sais pas, en fait. Donc, tant que ça fait plaisir, tant que ça le fait, tant qu'on peut continuer, qu'on a des gens derrière pour nous soutenir moralement, financièrement, etc., et que ça ne pose pas de problème dans la vie, bah ouais, on continue parce que c'est que du kiff. Après, quand le moment où c'est pas que du kiff et où on galère trop et où ça en prend sur notre santé, etc., bah là, il y a quand même une question à se poser, savoir si c'est pas... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme, mais est-ce que ça peut pas être dérangeant après pour continuer à vivre une vie normale? Bah là, il y a des questions à se poser. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas, quoi?
Eh ben, on verra bien.
on
verra bien.
Je commence à faire faim.
Bah, écoute, je ne peux en tout cas que encourager les personnes qui nous écoutent à vous suivre sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'ailleurs pour suivre un peu les aventures. Et c'est, je trouve ça chouette de vous suivre. D'ailleurs, Claire nous fait des 3 millions de vues sur certains réels. Hein.
C'est arrivé, ouais. Pas encore 3 millions, hein, 2,9. D'ailleurs, ça peut monter jusqu'à 3 millions. Je lance le pari.
Donc c'est bien, non, mais c'est vous documentez aussi, vous mettez des vidéos de vous à l'entraînement et c'est super aussi, on peut vous suivre comme ça sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, c'est top. Et merci beaucoup à vous pour ce moment. C'était un très bon moment, j'étais ravie de le partager avec vous et puis écoute, j'ai pas l'habitude d'avoir deux personnes devant moi. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et puis et on suivra de près vos résultats et en dehors aussi parce que c'est important aussi de suivre ce que vous faites en dehors du sport.
Merci.
Bah merci beaucoup de nous avoir invités, c'était trop trop cool, ouais.
Merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt.
Salut les filles.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt !